Bonsoir. Fin la semaine dernière de la publication de tous les résultats de l'examen d'État édition 2014. Selon le ministre de l'EPSP, il y a eu 54% de réussite sur l'ensemble du pays. Maker Mwangu estime qu'il y a eu une légère amélioration par rapport à l'année dernière, mais des efforts sont encore à fournir pour élever la qualité de l'enseignement en RDC. Quelle analyse faire de ces résultats? Nous en parlons avec le professeur Marcela Massolo, il est professeur de psychologie à l'UPEN et à l'UPC. Il est ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Bonsoir, professeur Marcela Massolo.
Bonsoir, monsieur.
Jean Bosco Pouna, il est secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques Sinecat en sigle. Bonsoir, Jean Bosco Pouna.
Bonsoir.
Et Jean-Marie Tantoumeil, acteur de la société civile, il est promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation nationale, BAC en sigle. Il est aussi ministre honoraire. Bonsoir Jean-Marie Tantoumeil.
Bonsoir.
Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Tarsis Yava Sangala depuis la ville de Kolwezi au Katanga, par rapport au taux de réussite de 54% justifié par la baisse de la qualité de l'enseignement en RDC. Nous pensons que le problème est partagé entre le gouvernement congolais, les établissements scolaires, les enseignants, les parents et les élèves. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Examen d'État édition 2014, il y a eu 54% de réussite sur l'ensemble du pays. Ceci ressort des statistiques que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP a présenté ce week-end à la presse. Maker Mwangu ajoute qu'il y a une légère amélioration dans les réussites par rapport à l'année dernière, mais les efforts sont encore à fournir pour élever la qualité de l'enseignement en RDC. Le ministre de l'EPSP a aussi annoncé la fin de la publication de tous les résultats de toutes les options à travers les pays. Jacques-Yves Molima pour les détails.
S'il faut comparer aux années antérieures, selon le ministre, il y a une amélioration quant à l'accès à l'éducation en RDC. Cependant, ce qui pose encore problème, c'est la qualité, admet Maker Mwangu, et qui de donner quelques pistes de solutions.
En tout cas, notre préoccupation, c'est l'amélioration de la qualité. En multipliant le nombre de formations, d'encadrement, de recyclage des enseignants, en donnant, en obligeant les écoles à avoir des bibliothèques scolaires, en améliorant aussi la gestion de nos différentes écoles, ça va nous permettre d'avoir une bonne qualité.
Une bonne qualité qui s'impose d'autant plus qu'en scrutant ces statistiques, le meilleur résultat pour cette édition 2014 provient des élèves qui ont présenté ces épreuves en dehors des frontières de la RDC, soit 65% de réussite. Par ailleurs, en ce qui concerne la réussite entre les garçons et les filles, celle-ci vient en tête avec 55% et le ministre Maker Mwangu d'illustrer.
Pour la première fois, peut-être, nous avons eu une fille de 15 ans qui a obtenu son diplôme d'État avec 69%. En commercial informatique, elle étudiait au collège Cardinal Echao. Elle s'appelle Kanzamungu Plamedi.
Une situation qui relance donc la question de la prise en charge des enfants surdoués en RDC, a admis le ministre.
Professeur Marcela Massolo, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie à l'UPEN et à l'UPC. Vous êtes aussi ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Comment vous analysez les taux de réussite de cette année qui est de 54%?
Bon, le taux de réussite, c'est un cas isolé. Il faudra plutôt reprendre, comme le ministre l'a dit, la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement dans son ensemble, et analyser année par année. Évidemment, il a fait un point de presse, et je pense que ses services lui-même s'attellent pour pouvoir rencontrer ses prouesses et ne pas rester dans les promesses d'amélioration des conditions de travail, les bibliothèques, les enseignants et tout ça, et qu'on puisse observer depuis 1967, la première édition de l'examen d'État. Jusqu'à maintenant, nous sommes en 2014, ça fait plusieurs années. Il faut faire cette analyse pour comprendre quel est le progrès et quels sont les couacs, quelles sont les difficultés que l'examen, dont le système lui-même rencontre. C'est le système qu'il faut analyser et pas le cas isolé de 54%. C'est bien 54%, mais que sont devenus, que vont devenir ceux-là, les 66 autres qui n'ont pas eu leur diplôme.
Voilà, puisque vous parlez du système qui doit être analysé, le ministre de l'EPSP a justifié ses taux à la qualité, à la baisse de la qualité de l'enseignement. N'est-ce pas un des éléments, n'est-ce pas, de ce système qui doit être analysé?
Si la qualité baisse, il n'y a pas de prouesse. N'est-ce pas? C'est la qualité baisse, mais ça baisse de quel côté? Je rappelle toujours l'ouvrage du père Écoire, qui est décédé il y a quelques 8-9 mois maintenant. L'école trahit. Il cherchait qui est-ce qu'il faut accuser. Et le père Écoire est décédé sans avoir décelé exactement qui faut-il accuser. Donc, nous avons la responsabilité, non pas seulement d'avancer en chiffres, mais d'aller dans le détail qui feront que le progrès réalisé cette année ici, ce n'est pas la rapidité non plus, ce n'est pas le nombre, mais plutôt la qualité. J'enseigne dans les premiers graduats, les premières années d'entrée à l'université. Vous avez bien dit à l'UPEN, vous avez bien dit à l'UPC, mais c'est une véritable cacophonie. Vous voyez, des jeunes gens qui arrivent en premier gradué à l'université, qui ont des difficultés pour écrire même leur propre nom. Alors, où est la qualité de l'enseignement? Donc, c'est une question. Il faut une remise en question. Et je suis content ici d'évoquer la nouvelle loi cadre qui venait d'être promulguée. Ça va être, je pense, un socle pour pouvoir élever le niveau de l'éducation, pourvu que l'application suive le texte, les décisions et les propositions qui ont été faites par notre Parlement.
Professeur Martial Massolo, les conditions de vie et de travail de l'enseignement sont parmi les causes à la baisse de la qualité de cet enseignement. Oui. Et certains experts estiment que la formation initiale n'est plus adaptée. Hein. Quelqu'un qui n'est pas passé par les humanités pédagogiques ou les ISP, ISPT ou ISAM, il se retrouve enseignant. Et à votre avis, pourquoi cette formation initiale fait défaut aujourd'hui?
C'est vrai et c'est faux en même temps, parce qu'on a pu mettre au niveau de des différentes universités, des différentes facultés, ce qu'on appelle la formation, l'agrégation. L'agrégation, tous les médecins qui terminent sont des licenciés en sciences médicales et pour pouvoir enseigner, ils doivent présenter une agrégation. Tous ceux qui terminent leur thèse, c'est pas dans les facultés de sciences pures, les mathématiques et le reste, doivent passer par l'agrégation. Je suis parmi les artisans parce que j'ai mis en place à l'UPC une unité d'agrégation. Nous sommes en 87. C'est pour préparer tous ceux qui terminent, les théologiens, les juristes, les économistes qui veulent aller enseigner, d'avoir l'outil pédagogique.
Alors, cette agrégation est prévue. Est-ce que c'est tous les étudiants qui passent par là?
Non, malheureusement, je dis que ceux qui veulent s'orienter vers l'enseignement, devenir professeur ou devenir instituteur ou je ne sais pas, passent par l'agrégation. Quand je terminais ma licence en psychologie à Kisangani en 1974, j'avais suivi en même temps une formation en agrégation parce que les psychologues ne sont pas des pédagogues purs. Vous voyez, donc il devait passer par l'agrégation avant de prendre la craie et accepter d'entrer dans les salles de classe pour que vous ayez justement cet outil pédagogique, cet instrument important.
Merci Jean Bosco Pouna. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT en sigle. 54% taux de réussite à l'examen d'État 2014. Votre analyse, vous, en tant qu'enseignant?
Merci beaucoup, Guy Maté. Il faut dire que ces faibles scores se justifient parce que on ne peut pas avoir autrement des résultats, notamment lorsque vous avez dans le système de l'EPSP plus de 187 000 enseignants qui enseignent mais qui ne sont pas payés. Lorsque vous avez des enseignants qui n'ont pas de salaire, je vais parler des salaires qui leur permettent de pouvoir nouer les deux bouts de moins. Lorsque vous avez des écoles qui ne respectent pas les normes, notamment en ce qui concerne les effectifs, et lorsque vous avez des élèves qui sont chassés régulièrement des salles de cours, on ne peut avoir que ces résultats de 54%. Je crois que dans les provinces, c'est encore plus criant. Mais ici, le professeur est revenu pour dire qu'il a présenté ces résultats comme un cas isolé. Nous pensons qu'il a raison parce que est-ce que les 54%, ce sont des résultats réels? En tant qu'enseignant, lorsque je parle de l'examen d'État, je le replace dans son contexte. Eh bien, l'examen d'État, c'est de l'évaluation. Le maître enseigne, aujourd'hui il est appelé facilitateur, c'est vrai, mais après avoir enseigné, il doit évaluer. Et il y a des techniques pour pouvoir évaluer. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans la modernité. Beaucoup de choses qui se passent au niveau de la correction ne sont pas toujours fiables. Donc, nous disons, par rapport à votre question, que ces faibles scores se justifient. D'ailleurs, vous venez de suivre le ministre lorsque il revient sur la qualité. Il parle bel et bien de la formation continue, mais il n'ose pas parler de la rémunération des enseignants. Et ça pose problème. Or, on ne peut pas parler de la qualité de l'enseignement sans réunir les éléments suivants. Le premier élément, c'est bien la rémunération de l'enseignant. Le deuxième élément, et là le ministre a raison, c'est la formation continue. Tout en sachant que la formation initiale pose également problème, notamment aux primaires. Les élèves qui terminent la sixième année pédagogique, ce sont ces élèves à qui on confie les classes, tout en sachant que ce sont des élèves approximatifs. Le troisième élément, c'est la retraite. Comment voulez-vous ne pas renouveler le personnel vieillissant qui continue à enseigner? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces enseignants-là? Et il y a les manuels scolaires. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort par rapport à cette question, mais il y a un débat qui doit être posé parce que tous ces manuels nous viennent de l'extérieur et donc on est presque en train de dépayser l'élève par rapport à ces différents manuels. Et le troisième et le dernier élément, le cinquième, c'est le support pédagogique. Donc, si on ne réunit pas tous ces éléments, en commençant par le salaire, la rémunération, eh bien, je crois que nous allons continuer à déplorer l'évaluation de l'examen d'État, qui est presque une évaluation, l'évaluation la plus prestigieuse de notre système éducatif, mais aujourd'hui, son image est véritablement ternie.
Oui, le ministre de l'EPSP justifie ses résultats par la baisse de la qualité de l'enseignement. Or, lorsque l'on parle de la qualité de l'enseignement, l'on pense tout de suite à plusieurs acteurs, notamment vous, enseignants. Et à quel niveau vous avez failli? Vous avez dit qu'ici, que lorsque l'enseignant dispense l'enseignement, il doit évaluer. À quel niveau vous avez, vous, enseignants, vous avez failli?
Oui, mais déjà au niveau de l'enseignement, au niveau de la transmission des connaissances, parce que le travail du maître, eh bien, c'est encadrer la classe et à la fin, il va devoir évaluer. Vous savez, nous avons l'évaluation sommative, nous avons également l'évaluation formative. Lorsque vous prenez l'examen d'État, au-delà de ces évaluations, il y a la certification, c'est-à-dire à la fin, il faut décerner un parchemin à l'élève finaliste qui termine. Et donc, où est-ce que nous avons failli? Mais c'est dans le système même. Comment le maître enseigne-t-il aujourd'hui s'il n'a pas connaissance des nouvelles approches d'enseignement? Ok, mais il ne saura pas bien faire son travail. S'il a devant lui, aujourd'hui nos classes varient de 60 à 80 élèves, vous comprenez? Et donc, moi je suis professeur de français, je dois donner la dissertation, je dois corriger 60 copies, vous comprenez, multiplié par le nombre de classes que j'ai. Je prends simplement les classes de primaire par exemple, vous avez 45 minutes ou 50 minutes que vous devrez enseigner. Vous avez 60 élèves devant vous, donc à chaque élève vous allez réserver combien de minutes? Une minute, c'est en dessous d'une minute. Et donc, vous ne saurez pas vous occuper de tous les élèves. Là, nous sommes dans les corps à corps avec les élèves en classe, dans les salles de classe. Mais lorsque vous prenez, vous dépassez cette étape, c'est l'étape de l'évaluation. Nous savons comment se font les évaluations internes, donc au niveau des classes, au niveau de l'école, comment ça se fait. Et nous allons extrapoler pour aller au TENAFEP et à l'examen d'État, où nous avons beaucoup d'abus aujourd'hui. Regardez comment les enseignants surveillent l'examen d'État. Et qui est commis à la surveillance? Ce n'est pas toujours les enseignants de l'école primaire.
Voilà, on dit que l'enseignant a oublié sa vocation première, celle qui consiste à former. Et l'enseignant a sacrifié l'enseignement, la formation plutôt, au profit de certains avantages pécuniaires.
Bon, moi je crois que ce n'est pas recevable cette remarque formulée de telle manière. Parce qu'en réalité, l'enseignant, c'est un employé. Il est agent de l'État, c'est vrai, il est un agent de collaboration. Quand il va au travail, c'est pour enseigner. Mais lorsque vous le mettez dans les conditions difficiles, infrahumaines, hein, à la fin du mois, il n'a presque rien. Celui-là, il n'a pas véritablement une épargne. Eh bien, ça pose problème. Je ne peux pas méconnaître le rôle négatif que jouent certains enseignants dans les salles de classe, mais il faut dire ici que c'est toute la politique qu'il faut repenser. Il faut aller vers les décideurs pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre sur place, sur pied, pour que finalement l'enseignant qui travaille soit motivé. Je vous dis ici que c'est un véritable scandale, 187 000 enseignants. Ça, c'est le chiffre avancé par le gouvernement, qui travaillent, mais qui sont NP. Alors, lors des dernières discussions, le gouvernement nous dit, pour le budget 2015, il va devoir prendre le tiers de ses effectifs. Mais vous comprenez que c'est quand même un véritable scandale. Donc, il va prendre 60 000 enseignants qu'on va devoir mécaniser pour leur donner un salaire. Et les 100 autres, 120 autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont continuer à travailler comme ça.
Donc, la situation n'évolue pas positivement.
La situation n'évolue pas positivement et je crois qu'il faut absolument qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse repenser les choses.
Jean-Marie Tantoumei, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes aussi promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation nationale, BAC en sigle. Vous êtes aussi ministre honoraire. Votre analyse par rapport au taux de réussite de l'édition 2014 qui est de 54%.
Merci beaucoup. Je suis enseignant de formation et de pratique, bientôt plus de 30 ans, mais depuis 94, je n'assume plus l'enseignement classique, mais je suis un enseignant indépendant à travers le BAC qui organise des conférences, débats et qui est partenaire à l'éducation nationale en tant qu'organisateur des activités culturelles en milieu scolaire, académique et paroissial. Alors, quand vous dites 54, quand le ministre dit 54% de réussite, ça fait 46% d'échecs, c'est-à-dire sur 100 élèves, 46 n'ont pas le diplôme d'État. Ils sont appelés à reprendre la sixième et cela a déjà repris à ne plus reprendre. Et par ailleurs, le ministre parle d'un accroissement du nombre de jeunes, d'enfants qui accèdent à l'éducation. Je ne sais pas si nous devons nous réjouir de l'accès à l'éducation, d'entrer dans la maison où on donne l'éducation, où on doit se réjouir de la qualité de ce que l'enfant qui est entré dans la maison qu'on appelle l'éducation a reçu. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une réussite. Parce que quand un universitaire termine ses études, un cycle, avec 54%, c'est qu'il a peiné. Je pense que pour être admis comme professeur, il faut avoir au moins la distinction, 70%. Et à l'époque, on parlait de mention passable, 60%. Oh, le 54, c'est en dessous. Je pense que le ministre, ayant eu l'honnêteté de reconnaître que la qualité n'y est pas, même le nombre n'y est pas, parce que 54, mais écoutez, c'est moins de 60. Et alors, j'aurais souhaité, comme le ministre a l'avantage d'avoir fait au moins 7 ans, je pense, il est là depuis le premier gouvernement Gizenga. Donc, il a tout ce qu'il faut comme moyen pour s'arrêter. J'aurais souhaité que pendant ces vacances, avant la rentrée scolaire prochaine, que le ministre organise une réflexion sur les examens d'État. Quelles sont les faiblesses? Quelles sont les forces? Qu'est-ce qu'on doit conserver? Et je me demande, si les élèves ayant déclaré réussir l'école secondaire ne sont pas en mesure d'écrire une phrase, la simple rédaction. Mais je me demande comment ils arrivent à faire la dissertation qui est plus qu'une simple rédaction. La dissertation demande encore de la logique.
Et à qui non, vous attribuez la faute? Vous avez suivi le professeur Mascara qui a parlé de la qualité de l'enseignement. Il s'est même posé la question de savoir qui faut-il accuser.
Mon cher frère, il y a un organisateur de l'enseignement. Mais c'est le gouvernement.
L'État congolais.
Nous ne sommes pas dans un pays où il n'y a pas de gouvernement, s'il vous plaît. Et l'avantage de mon jeune frère Makere Mwangu, ministre en fonction, est qu'il a au moins 7 ans à son actif. Donc il connaît les faiblesses, les hauts et les bas. Je l'invite, s'il veut bien, à organiser une réflexion. On s'arrête un peu pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et à cette réflexion, qu'il y ait des acteurs internes et externes à l'EPSP. Parce que la dissertation, et je ne sais pas, j'ai posé la question à quelqu'un, il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas, les restes ont fait suite à Ficofion parfois. Mais la dissertation, je ne sais pas, les examinateurs, est-ce qu'ils lisent mal les textes? Est-ce qu'ils lisent mal les textes écrits par nos élèves? J'ai eu des neveux diplômés d'État incapables d'écrire même une lettre en Kikongo, notre langue maternelle. Alors, je ne sais pas. Eux, ils sont diplômés d'État. Alors, je me demande, pourquoi devons-nous nous réjouir de dire, ah, c'est rapide. La rapidité de la communication des résultats ne peut pas quand même nous consoler.
Lorsque les résultats ne sont pas fameux.
Et encore que ceux qui sont proclamés, leur comportement n'est pas digne du point de vue éducation civique. Alors, ce que je voudrais dire, le ministère a beaucoup de compétences. Beaucoup d'inspecteurs, beaucoup d'enseignants compétents. Tout le monde n'est pas incompétent. Mais qu'on puisse prendre le temps. Et en attendant, autre piste de solution, de proposition, on l'a toujours dit. Il y a eu beaucoup de séminaires, de réformes, de réflexions. Je l'ai toujours dit. Pour renforcer la capacité, les capacités ne sont jamais renforcées. Pourquoi? Mais l'enseignant, quand il parle de l'accroissement des bibliothèques, mais les enfants n'ont même pas le temps de lire les livres. Puisque quand il va lire, l'enseignant n'a pas le temps de corriger un texte d'un enfant. L'enseignant doit courir derrière l'argent, il doit vite quitter son école pour aller dans une autre. Bref, l'enseignant, à part quelques écoles, les enseignants n'ont pas le temps de corriger un texte d'un enfant. Ils n'ont pas le temps et ils n'en auront pas. Tant que le salaire est ce qu'il est. On a récupéré les salaires. Et puis il y a le système des non-payés qui devient un système. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui travaille pendant 3-4 ans dans les écoles de Sœur Marie au Kwango, beaucoup d'enseignants sont NP. Et à ça se demander, mais les NP, ils ne sont pas payés. Alors que la primature a renforcé les émoluments de son cabinet pour motiver les conseillers.
Oui, mais c'est un travail, depuis toujours, n'est-ce pas, que l'on dénonce les maux qui rongent l'enseignement en RDC. Et pourquoi, à votre avis, les choses ne changent-elles pas? Est-ce que c'est lié seulement à la volonté politique?
Il y a le manque de volonté politique. Je l'ai déjà dit. Il y a des Congolais qui pensent que eux ayant accédé aux fonctions politiques et financière, il faut qu'ils préparent leurs enfants à les remplacer. Il ne faut pas que ceux qui n'ont pas la capacité financière qu'ils ont accèdent à la bonne éducation. D'où, c'est un système entretenu. Je l'ai toujours dit depuis plus de 20 ans, je l'ai dit, je continue à le dire. Il y a le manque de volonté. À un moment donné, les enfants qui étaient partis en Europe étaient revenus. On avait créé certaines écoles dès l'Institut Ngolo Saba Mbuta à Makala pour les enfants qui étaient rentrés de l'Europe. Il y a un certain système. Il y a une volonté d'un petit groupe de maintenir le pouvoir politique et financier. Merci. Et d'empêcher que les paysans, ceux qui gagnent moins, ne puissent pas faire scolariser leurs enfants. Et quand ils les mettent dans les écoles, ils ne peuvent être bien formés. Aujourd'hui, les bonnes écoles maternelles et primaires sont des écoles privées. Quel enseignant peut mettre son enfant dans une école privée? Merci. Quel paysan? Les écoles privées, c'est pour ceux qui ont des moyens. Donc, il y a une volonté de maintenir un groupe de Congolais dans le subissement de la volonté de ceux qui ont accédé au pouvoir politique et financier. Je l'ai toujours dit et je m'assume. Je dis, il manque de volonté politique. Merci. Il suffit que le chef de l'État le veuille, les choses marcheront.
Merci, professeur Massiala Masolo. Vous avez suivi Tantou Mei qui parle d'une volonté, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir les choses dans cet état, les statu quo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit?
Bon, c'est assez partagé. puisque j'étais dans les environs du pouvoir pendant quelques années. Première édition en 94 à l'IPSP.
Vous n'avez jamais eu la volonté d'améliorer les choses?
Si, quand je suis revenu en 2001, le premier acte, c'est de mettre un accent particulier sur les écoles techniques et professionnelles. Et si vous allez dans les écoles aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles et dans beaucoup de laboratoires, les choses ont évolué.
Et donc le problème n'est pas nécessairement lié à un manque de volonté politique?
Bon, aussi un peu, peut-être pas un manque, mais il y a une certaine distraction. C'est quand j'ai...
De la part de qui? De l'État?
Quand je proposais le dossier de l'amélioration de l'enseignement technique et professionnel, mais j'étais un peu pris pour quelqu'un qui rêvait.
Vous entendez?
Vous voyez, qui rêvait, alors que c'était possible.
Et donc, comme vous l'avez dit, il faut nécessairement repenser tous les systèmes.
L'État congolais est le pouvoir organisateur de l'enseignement. Mm-hmm. On ne peut pas l'épargner de la critique, bien sûr. Or, l'État, c'est une somme de personnes, vous voyez, triées, qui jouent un rôle, le rôle légalien, n'est-ce pas?
Et donc, c'est pas lié aux individus, mais c'est lié à cette situation dans laquelle se trouvent tous ces individus, parce que vous avez évoqué les systèmes. Il y a des individus qui sont animés de bonne foi, mais butés contre certaines réalités qu'ils trouvent dans les systèmes.
L'individu joue un rôle. Et le rôle doit correspondre à la volonté politique, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas barrer l'État. On ne discute pas de la loi financière, la loi budgétaire, en dehors des rouages de l'État. N'est-ce pas?
Oui.
C'est très lié. Mais il faut des hommes, des hommes de qualité, des hommes qui croient, des hommes qui espèrent, des hommes qui...
Oui, professeur, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Goma au Nord Kivu.
Oui.
Quiero mourir à partir de Goma, province du Nord Kivu. Lorsque le ministre de l'EPST justifie ce taux de réussite, baisse de la qualité de l'enseignement à RDC, il escamote et désigne les vrais problèmes. Le vrai problème de l'échec massif aux examens d'État, c'est le non-paiement du salaire des enseignants. À l'époque où l'État prenait encore sa responsabilité de payer les salaires des enseignants, l'enseignement marchait bien et il y avait un taux minime d'échec. Qu'on cesse de distraire les Congolais par des formations des enseignants ou des productions de manuels scolaires. Tout cela doit venir après. La restauration de la condition sociale des enseignants est la solution primordiale pour résoudre les problèmes des échecs aux épreuves.
Oui, professeur Massiala.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. La seule correction, c'est que on ne peut pas laisser de côté un aspect. L'État est capable, n'est-ce pas, à la fois de bien payer les enseignants et en même temps de faire produire des manuels scolaires de qualité et entretenir l'outil pédagogique.
Donc vous êtes d'accord avec ce que M. Tantoumé a dit, qu'il y a de la part de l'État congolais cette volonté de la part des acteurs en fait.
Des gouvernants.
Voilà, des gouvernants.
L'État, c'est nous tous.
Ok, des gouvernants, de pouvoir maintenir cet état des choses. Bon. Parce que les moyens sont là pour améliorer les conditions de vie des enseignants.
Peut-être,
mais pourquoi ces conditions ne s'améliorent toujours pas?
Peut-être ne pas vouloir maintenir, parce que vouloir c'est différent. C'est pourquoi je parlais de la distraction. Vous voyez, Monsieur, on met la priorité là où elle ne doit pas être. Et pour la période actuelle, le chef de l'État a pris l'éducation comme priorité des priorités. C'est pourquoi nous entendons évoquer régulièrement qu'il y a 1000 écoles qui en réhabilitation, en construction, ainsi de suite. Moi, je suis content de savoir ça, mais j'ai circulé le pays. Il n'y a pas 1000 écoles. On a bien plus que ça. Bon, il faudra mettre ça dans un continuum. Cette année-ci, nous faisons ça. L'année prochaine, ce sera ça. Et puis, qui est vraiment un contrôle et un suivi réel. et qu'à la fin de chaque année, qu'il y ait une évaluation de l'exercice que le gouvernement a entrepris. Mais si cela n'est pas fait, je crois que les Congolais aujourd'hui sont incapables de se laisser berner.
Monsieur Jean-Bosco Pouna, vous pensez qu'il y a de la part des gouvernants cette volonté de pouvoir maintenir les statu quo?
Oui, merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, il a été dit que le pouvoir organisateur de l'enseignement, eh bien, c'est l'État congolais. Et aujourd'hui, lorsque vous observez de près la gestion du système éducatif, vous allez vous rendre compte qu'il y a à côté de l'État des églises qui cogèrent. Et c'est un système tout au moins corrompu qu'on est en train de gérer. Pourquoi je dis corrompu ? Parce que vous allez vous rendre compte que les églises, en réalité, qui devraient se battre pour préserver la qualité, eh bien, aujourd'hui, tous accompagnent l'État dans sa démission. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la prise en charge des enseignants, qui date de 1993, puisse continuer à faire ses méfaits et au regard impuissant des églises. Vous savez, par exemple, dans l'église catholique, eh bien, il y a, lorsque les parents versent des frais, il y a 20% que l'archidiocèse de Kinshasa prélève dans cette motivation réservée à encourager les enseignants. Vous comprenez, c'est un véritable recul. Donc, et l'État, et les églises, et même la société, nous tous, nous sommes en train d'assister à cette mort lente de notre système éducatif.
Système, un système entretenu par tous. Entretenu par tous. Pourquoi on a du mal à les déraciner?
On a du mal à les déraciner, et pourtant, le système fait énormément du mal à notre jeunesse. Donc
et
nous
aux
disons, et aux parents bien sûr, mais les parents ne sont pas exonérés parce que les parents se retrouvent dans les associations des parents. En réalité, là-bas, on devrait prendre les choses en main.
Vous pensez que les parents ont le choix à partir du moment où l'État qui est censé, n'est-ce pas, entretenir les écoles ainsi que les enseignants, s'est désengagé de ses responsabilités. Les parents vont rester passifs regardant son enfant à la maison en train de rester là dans l'oisiveté sans aller à l'école tout simplement
non,
parce que
mais,
parents, plutôt l'État ne veut pas prendre ses
responsabilités. Non, mais écoutez, vous allez dans une école, vous déboursez 200-400 $ pour scolariser l'enfant. Mais au bout de compte, l'enfant ne sait pas lire et écrire. C'est une véritable escroquerie. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est-à-dire, les parents déboursent beaucoup d'argent. Ils ne contrôlent pas. À la fin, il y a un diplôme ronflant, avec des pourcentages ronflants. 70%, 75% et même 80%.
Et vous pensez que les parents ont assez de marge et de manœuvre?
Les parents, ils sont dans la société. Je pense qu'il faut un véritable débat autour de cette question pour que finalement, nous puissions nous dire voilà des choses qu'il faut corriger et voilà comment on doit les faire pour que l'examen d'État puisse retrouver ses lettres de noblesse. Mais si on continue à faire cet examen tel que nous le faisons aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est un véritable abrutissement qu'on est en train de préparer. Il faut absolument que les choses changent. Les enseignants ont leur part de responsabilité. Les écoles, vous savez, à l'examen d'État, par exemple, il y a le point de l'école, ce qu'on appelle les E13, mais ce sont des points édulcorés, ce sont des points fictifs, ce sont des points arrangés avec les inspecteurs, et tous les enseignants qui nous suivent les savent. Donc, un élève qui n'a pas, l'école arrange avec l'inspecteur le point qu'on peut présenter à l'examen d'État. Vous prenez maintenant le hors session. Là, vous avez la dissertation, vous avez la pratique professionnelle et français oral. Mais là, mais c'est encore des problèmes, parce que les écoles s'arrangent avec les inspecteurs qui arrivent pour que tous ces enfants réussissent. Et la plus grande question, c'est maintenant au niveau de l'examen d'État. Des actes d'abus, des actes de corruption. Mais nous le remarquons au niveau de l'examen d'État. Vous voyez un surveillant, au lieu de surveiller sa classe, au lieu de surveiller les élèves, non, il surveille ceux qui pourront venir voir ce qui se passe au niveau des centres. Tous ces problèmes sont connus et des élèves, et des parents, et du ministère. Je pense qu'il faut prendre le courage pour pouvoir changer. La volonté politique n'y est pas parce que le budget de l'État Le budget de l'éducation pour 2015, ce qui est projeté, c'est 16%. Mais de quel budget? Et lorsque vous compulsez le budget réservé à la rémunération, eh bien, ça ne résout pas les problèmes. Aucune majoration prévue, et donc les enseignants sont continuellement démotivés. La qualité de l'enseignement, je pense, à ce stade d'ici, c'est un leurre.
Monsieur Tantoumeï, la gratuité de l'enseignement qui est consacrée par la Constitution, elle n'est pas encore effective. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce que l'État n'a pas assez de moyens pour financer cette gratuité, ou c'est parce que on voudrait que les choses restent ainsi?
Merci beaucoup. Je réponds à votre question, puis je vais dire autre chose. C'est parce que lorsque il était demandé la contribution des parents, j'étais conseiller pédagogique à l'Institut Salongo-Ribandal. Et j'ai quitté mon poste de conseiller pédagogique en 94 parce que par conviction, je ne voulais plus demeurer complice. Et jusqu'aujourd'hui, je suis un enseignant indépendant. Depuis 2001, je ne suis pas en fonction comme ministre. Je suis là, je me bats autrement. Nous manquons la volonté, nous les Congolais, de changer les choses. Nous sommes des paresseux. Nous subissons la volonté des gouvernants. J'avais dit dès le départ, en cette année-là, c'était à la fin du gouvernement Birindwa, que demander aux parents de contribuer pour payer l'enseignant, c'était un leurre. Au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles où l'argent payé par les parents pour les enseignants n'arrive même pas aux enseignants. Je citerai les cas concrets, on peut aller vérifier le lycée pédagogique de Limété. Depuis 3 mois, les enseignants n'ont même pas cette contribution qui devrait être comme prime.
Alors, et tout le monde le sait. Si les parents ne payent pas aujourd'hui, est-ce que les enseignants vont continuer à donner cours?
Je continue, s'il vous plaît. L'État doit s'assumer. Mais mon cher frère, comment voulez-vous que certaines personnes assumant les fonctions de l'État, les fonctions au sommet, puissent être plus riches que tout l'État? Vous trouvez normal? Il y en a qui, à leur mort, laissent des villas que les leurs ne savent même pas gérer. Alors qu'à côté, les gens... Non, il y a ceci. Je termine par ceci, s'il vous plaît. Quand ils parlent de la sixième, ils trouvent la faute chez les inspecteurs. Mais l'élève qui arrive jusqu'en cinquième secondaire, pour qu'il arrive en cinquième secondaire, ce sont les enseignants. Comment cet élève arrive en cinquième secondaire sans savoir lire et écrire une phrase? Sans savoir élaborer une rédaction, une dissertation. Mais les enseignants qu'ils sont, les laissent passer des classes. Jusqu'en cinquième. Si en sixième, c'est le E13. Mais jusqu'en cinquième. Donc, l'enseignant aussi est complice, coupable. Parce que tout le monde dit bon, tout ça, quand on est là, il y a tout le monde qui est là. Logique. Donc, tout cela, je dis ceci. Mon cher frère, heureusement que vous dites les gouvernants. L'État, c'est nous tous. L'État n'est pas pauvre. L'État est riche. Mais les richesses de l'État sont mal reparties. Il n'y a pas de justice distributive, mon frère.
Vous avez une question pour vous, M. Tantoumeï.
Oui, allez-y.
Pourquoi vous, c'est qui vous?
Je l'écoute.
Pourquoi vous?
C'est Eric Kabazi, depuis la province du Sud, qui vous ville de Bukavu. Le ministre dit que le niveau de l'enseignement a baissé, alors que c'est lui le responsable. Les enseignants sont corrompus, faute d'argent, et laissent les idiots en sixième, et le résultat, c'est l'échec. Tous les élèves se disent, j'aurai mon diplôme, car à la veille des examens, nous aurons des questions appelées communément Mouchele en Swahili. Je demanderai au ministre de bien payer les enseignants et de boucher tous les trous qui se fuitent au questionnaire des examens d'État.
Voilà, bien payer les enseignants, c'est l'une des solutions, n'est-ce pas, pour améliorer les taux des réussites à l'examen d'État. Le professeur Massiala a aussi proposé que l'on puisse repenser tous les systèmes. Et votre proposition pour améliorer, n'est-ce pas, les taux des réussites aux examens d'État?
Pour améliorer les taux des réussites, je pense que ce système a donné ses limites. Ce n'est pas le fait de recourir à une organisation commerciale qui proclame vite et parfois mal les résultats, qu'on a progressé. Aller vite ne signifie pas aller bien. Et ensuite, vous savez que la plus grande faute, c'est le principe étudier pour comprendre, coopérer et tricher pour réussir. Et cette tricherie, ça a toutes les étapes. Avant la sixième, avec les enseignants, en sixième, avec tout le monde qui participe, et parce que vous savez qu'il y a des écoles qui, parfois, avec cette proclamation précipitée rapidement, il y a des écoles qui ont des néants, on ne comprend rien. Je pense qu'il faut que nous nous arrêtions pour améliorer. Nous avons eu plusieurs séminaires de réformes. Machal Massol était rapporteur de la commission de réformes. Et puis des états généraux.
Nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, votre
des états généraux. Avec moi, ce n'est Chibangu. Tout cela, on réfléchit, on met dans les tiroirs. Les réflexions ont été faites. Les Machala sont là, les Chibangu sont là, nous sommes là. On peut voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre. On ne peut pas recommencer tout à zéro. On ne peut pas chaque fois croire qu'on va encore créer la roue. Merci. Le malheur est qu'on ne veut pas écouter. Quand on a le seau de l'État et le bic de l'État, on ne veut pas écouter les autres.
Merci.
Les on croit que tout commence avec soi, tout finira avec soi.
Les réflexions ont toujours été faites, mais rien n'échange. Professeur Marcel Amassolo, que faut-il pour améliorer les taux de réussite à l'examen d'État? Ça sera sur votre conclusion.
Au fait, c'est ce qui vient d'être dit par nous tous. Il y a les enseignants, leurs conditions de travail doivent être revues. Il y a la formation continue. Moi, j'ai terminé en 81. J'ai participé à quelques séminaires. Mais ces séminaires ne peuvent pas être épisodiques. Ça doit être des séminaires continus. Quand on dit continu, c'est continu. Et c'est pourquoi j'avais refusé que SIDEP devienne une université. Parce que SIDEP avait cette mission d'entretenir le contenu de ceux qui ont terminé et qui travaillent. Oui, c'est important. C'est important aussi que une certaine moralisation, n'est-ce pas? Je pourrais même parler en termes de l'éthique.
L'éthique, oui.
L'école a besoin d'une éthique et la société congolaise a besoin d'une éthique. C'est impossible que les parents aillent monnayer la réussite de leurs enfants. Voyez, quels enfants ils vont avoir? Mais aujourd'hui, ça se remarque et tout ça contribue à la baisse de l'enseignement.
Merci.
Et déclarer la gratuité, c'est trop fort.
C'est utopique.
Ouais, c'est trop fort parce que je suis protestant et je connais dans beaucoup de pays protestants où l'école, la santé et sont offertes, mais c'est 40% de votre salaire qui reste dans la caisse commune.
Merci, professeur. Jean Bosco Puna, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de l'Ouganda.
C'est l'ingénieur Junior Milambo à partir de Kampala. Ma réaction est celle de la première, c'est celle d'abord de remercier le ministre d'avoir abattu ce travail. Mais il s'agit maintenant d'un problème que j'aimerais souligner dans ce cas, la sécurité des items des examens d'État. Il y a vraiment un laisser-aller dans ce système-là parce qu'il y a trop de corruption, il y a trop de laisser-aller dans ce système-là. Alors, ce qui est même que les élèves n'étudient plus, ne préparent plus les examens d'État, ils attendent qu'à la veille des examens pour acheter des fuites qui viennent auprès des préfets des écoles.
Monsieur Jean-Bosco Funa, que faut-il faire pour améliorer les taux de réussite?
Oui, il faut dire que nous ne sommes pas contents de l'examen d'État que nous avons. Il faut absolument le changer. Tout à l'heure, on a parlé de la corruption. Il faut également dire que les élèves que nous avons en sixième année ne sont pas toujours des élèves qui méritent d'être en sixième année. Donc, il y a un problème de recrutement. Et le recrutement, c'est les directions scolaires. C'est les inspecteurs qui doivent descendre sur le terrain et bien faire le contrôle. Parce que lorsqu'un inspecteur arrive à l'école, on lui présente les différents bulletins des élèves, il ne contrôle pas les cursus et ça pose problème. Il est des élèves aujourd'hui qui ont été en troisième année, qui ont sauté la quatrième et la cinquième année, qui se retrouvent en sixième année et qui, par chance, je dirais, par un hasard, obtiennent 70%. On se moque de qui? On doit cesser de se moquer de l'enseignant. Pour repenser, je dirais également qu'il faut carrément démettre le système de prise en charge par les ménages pauvres. C'est un système qui favorise les classes pléthoriques parce que les écoles ont besoin de beaucoup plus d'argent pour que les enseignants puissent avoir quelque chose. Nous félicitons d'ailleurs les camarades du Bas-Congo, du Sénécat Bas-Congo. Les enseignants là-bas ont pris la décision pour cette année qu'on ne puisse plus continuer à percevoir ces frais parce que ça ne résout pas les problèmes. Voilà donc comment nous voyons les choses au niveau du Sénécat. Nous pensons que si tous les acteurs, en commençant par l'État, les
les parents, les enseignants, les directions scolaires, c'est nous tous. Parce que, en fait, l'enfant qui est mal formé, c'est l'enfant de l'inspecteur, c'est l'enfant de l'enseignant, c'est l'enfant du ministre. Donc nous pensons que si nous tous, nous nous mettons ensemble, eh bien les choses pourront changer au bonheur du Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Manzango qui était à la technique, à Kéline Kouté, Samuel Kacha qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.